Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 22h. C'est l'heure du journal. Isabelle Millet.
En soi, entendre la justice s'exprimer de cette manière, c'est déjà aussi une victoire. Après, évidemment que nous souhaiterions que le laboratoire soit plus sévèrement sanctionné.
Et le réquisitoire, donc ce soir, au procès du Mediator, plus de 8 millions d'euros d'amende requis contre le groupe Servier et 3 ans de prison ferme contre l'ex numéro 2. Les proches de Cédric Chouvia, ce livreur mort après son arrestation, interpellent Emmanuel Macron. Ils veulent comprendre pourquoi les 4 policiers présents ce jour-là n'ont pas été suspendus.
On n'y a laissé aucune chance. Il a crié « j'étouffe, 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 j'étouffe ». Et non, on y va, on continue.
Reconfinement en Allemagne, dans 2 régions, 500 000 d'habitants après la détection d'un foyer dans le plus grand abattoir d'Europe.
Pour nous tous, c'est terrible. On reprenait goût à la liberté et voilà que tout ferme à nouveau.
En France, dans les entreprises, protocole sanitaire allégé pour accélérer le retour des salariés. Les municipales, second tour, J-5, on sera à Dijon. La Bourse de Paris a clôturé ce soir en hausse de 1,39% à 5017 points. Didier Hamot de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Le temps de demain, comme aujourd'hui, sera estival sur l'ensemble du pays avec attention encore une forte hausse des températures. Ne manquez pas les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Fabienne Arata. Elle est la directrice générale de LinkedIn France qui a cartonné, paraît-il, pendant la crise.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'était donc le réquisitoire ce soir au procès du scandale du Mediator. 3 ans de prison ferme requis contre l'ex numéro 2 du groupe Servier. 8,2 millions d'euros d'amende contre les laboratoires et 200 000 euros contre l'agence du médicament. Le Mediator, on le rappelle, c'est ce médicament coupe-faim prescrit pendant 33 ans et soupçonné d'avoir provoqué plus de 500 décès et des milliers d'hospitalisations. Pour maître Jean-Christophe Coubris, qui représente 2600 victimes, il s'agit d'un réquisitoire équilibré.
Un réquisitoire très long, une journée entière de plus de 9 heures. Je crois que c'est la première fois que j'assiste à cela. Et quant aux condamnations qu'elle a suggérées, qu'elle a proposées au tribunal, pour certaines victimes, ça ne va peut-être pas paraître suffisant, mais ce sont tout de même des sanctions très lourdes. 5 ans d'emprisonnement à l'encontre de M. Seta, ce n'est pas rien, dont 3 ans ferme. C'est un réquisitoire qui me paraît équilibré et j'espère que le tribunal ira dans ce sens. En soi, entendre la justice s'exprimer de cette manière, c'est déjà aussi une victoire. C'est ce qui m'était rapporté à la sortie de l'audience. Elles étaient toutes satisfaites de ce qu'elles avaient entendu et du travail qui a été fait par la justice. Donc cela, je pense que c'est déjà une victoire qu'il faut admettre. Après, évidemment que nous souhaiterions que le laboratoire soit plus sévèrement sanctionné. Pas d'interdiction d'exercer, pas de fermeture temporaire et encore moins de fermeture définitive. Pour beaucoup de victimes, le mot Servier devient un mot insupportable. Et savoir que demain, ce laboratoire pourra encore continuer à travailler dans les mêmes conditions, avec le même nom. Ça, c'est extrêmement dur pour elle de l'admettre.
Maître Jean-Christophe Coubris, qui représente 2600 victimes du Mediator, avec Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. La famille de Cédric Chouvia, ce livreur décédé à l'issue d'un contrôle routier en janvier dernier, interpelle aujourd'hui directement Emmanuel Macron. Pourquoi les policiers mis en cause dans cette affaire ne sont-ils pas suspendus, demande-t-elle au lendemain de la diffusion de nouveaux éléments, des enregistrements révélés par Mediapart et par le journal Le Monde, sur lesquels on entend le livreur plaqué au sol dire à 7 reprises qu'il étouffe. Une nouvelle fois, ce sont les techniques d'interpellation qui sont en cause. Guillaume Bié, plusieurs proches de Cédric Chouvia ont donc pris la parole aujourd'hui.
Oui, dans un mélange de colère, désarroi et tristesse, les enfants, la veuve, la sœur, les parents de Cédric Chouvia ont tenu à s'exprimer, notamment son père, très ému après avoir maintenant découvert les derniers mots de son fils, répétant qu'il étouffait.
Quand vous entendez 7 fois votre fils, c'est dur. Et on n'y a pas laissé de chance, quoi. En gros, c'est crève, salopard, parce que ta plaque était sale. Vous voyez ? Donc on n'y a laissé aucune chance. Vous savez, dimanche, c'était quoi, dimanche ? C'était la fête des pères. Moi, il m'a manqué un coup de fil. C'est de mon fils. Il ne m'a pas appelé dimanche.
Les proches de Cédric Chouvia attendent que les 4 policiers impliqués soient mis en examen. Ils ne comprennent pas que ces fonctionnaires ne soient toujours pas suspendus. Quant aux avocats de la famille, ils dénoncent des violences policières permanentes, un déni, un mépris des institutions, tout en saluant le travail des juges. Maître William Bourdon lui pointe particulièrement l'attitude des policiers.
Au lieu de s'arrêter, ils continuent. Et pourquoi ils continuent ? Parce qu'ils sont dans l'obsession de l'efficacité, dans l'obsession que l'immobilisation soit absolument parfaite et acquise. Et on voit bien que dans cette technique-là, il y a une perversion. Et cette perversion, c'est qu'elle conduit à s'acharner sur un homme au moment où il faudrait s'abstenir.
Alors la famille de Cédric Chouviat lance un appel au président de la République lui demandant de s'exprimer et d'interdire aux policiers de pratiquer la clé d'étranglement et le plaquage ventral.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Alors on vient d'entendre la famille. Les policiers, de leur côté, affirment ne pas avoir entendu Cédric Chouviat lorsqu'il s'est plaint d'étouffer. Écoutez l'un de leurs avocats, maître Thibault de Montbrial.
Lorsque les policiers en garde à vue ont été confrontés à ces propos, ils ont tous été à la fois surpris et effondrés. Effondrés parce que, bien sûr, s'ils les avaient entendus, ces propos, ils auraient aussitôt arrêté ce qu'ils étaient en train de faire. En réalité, ces propos, ils ne les ont pas entendus, puisque c'était un casque micro, donc avec un micro tout près de la bouche, qui a donc amplifié ces propos. Par ailleurs, M. Chouviat était en train de lutter, donc il y avait un bruit de lutte. Et enfin, tout ça s'est déroulé à quelques dizaines de centimètres de la circulation, une circulation abondante qui faisait aussi beaucoup de bruit. Ce qui est extrêmement important à souligner, c'est que si les enquêteurs avaient eu le moindre doute sur le fait que tel ou tel des policiers avait menti sur ce point qui est un point important, il y avait une manière procédurale très simple qui consiste à déférer les gens à la fin de la garde à vue. Or, ce choix n'a pas été celui des juges d'instruction. C'est donc que, à ce stade, il est probable que le juge d'instruction ait considéré comme les policiers qu'il n'ait pas pu entendre les propos de M. Chouviat.
Des propos recueillis pour Europe 1 par Alain Acco. Autre affaire, la mise en examen de 4 CRS pour violence volontaire. Les faits remontent à décembre 2018. C'était en marge du mouvement des Gilets jaunes. Des manifestants réfugiés dans un fast-food proche des Champs-Élysées avaient été alors violemment frappés à coups de matraque par une douzaine de CRS. Et puis à Strasbourg, cette fois, un gardien de la paix a aujourd'hui été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Là aussi, pour des coups de matraque sur une manifestante gilet jaune de 62 ans. Dans l'affaire Estelle Mouzin, les fouilles effectuées depuis hier dans les Ardennes, dans deux propriétés du tueur en série Michel Fourniret, ces fouilles n'ont pour l'instant rien donné. Elles vont se poursuivre et peut-être même s'étendre à la Belgique. En tout cas, de nouveaux matériels vont être apportés sur place demain. Michel Fourniret qui a avoué le meurtre de la petite fille.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h07, c'est la suite de votre journal avec cette crainte, toujours, d'une deuxième vague du Covid-19, ravivée par la situation chez certains de nos voisins au Portugal, mais surtout en Allemagne. Le pays reconfine deux régions, deux cantons voisins après la contamination massive dans un abattoir. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1. C'est un retour en arrière terrible ce soir pour un demi-million d'habitants.
Oui, même si dans les faits, avec la fermeture dès la semaine dernière des écoles et surtout de l'abattoir, le principal employeur de la région, on était déjà en situation d'urgence sanitaire. Et dès jeudi, le canton voisin sera lui aussi concerné pour mettre sous cloche une zone la plus large possible et éviter ainsi la propagation du virus au reste du Land, la Rhénanie, un bassin de population très dense avec plus de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a donc refermé les bars, les salles de sport, les piscines, les cinémas dans ce canton et interdit de se retrouver entre amis ou avec la famille jusqu'au 30 juin. À l'heure actuelle, il n'y a aucune autre contamination en dehors des salariés de l'abattoir et de leur famille. Ce sont des saisonniers roumains et bulgares parqués à l'écart de la commune dans des logements exigus, à l'hygiène précaire. Cela fait des années que les syndicats allemands dénoncent leurs conditions de travail et de vie. Une filière de la viande et qui est vraiment montrée du doigt ici en Allemagne, car depuis la fin avril, c'est le 5e foyer d'infection qui se développe dans un abattoir en Allemagne. Mais la politique de la région est aussi épinglée, car il faut savoir que la Rhénanie est le Land qui a déconfiné ici le plus rapidement, contre l'avis d'Angela Merkel et au mépris des recommandations des scientifiques.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. En France, c'est la situation en Guyane qui préoccupe la ministre des Outre-mer. Et sur place, un reconfinement est envisagé. Emmanuel Macron s'est entretenu cet après-midi avec Nicolas Sarkozy avant de recevoir François Hollande vendredi pour évoquer l'après-crise du coronavirus et la nouvelle étape du quinquennat. Les organisations patronales ont-elles rendez-vous demain à l'Élysée pour examiner un assouplissement du protocole sanitaire appliqué dans les entreprises? Les règles seront moins contraignantes. 1 mètre par exemple entre chaque salarié et non plus 4 mètres carrés par personne. Pourtant, certaines entreprises restent assez prudentes. C'est le cas dans cette PME de Marseille où vous vous êtes rendue, Nathalie Chevance.
Oui, dans cette société, 14 salariés et un peu plus de la moitié de retour au bureau par roulement. Ici, la fin programmée des 4 mètres de distance entre chaque collaborateur ne changera pas grand-chose, car l'espace a déjà été repensé et pas question de tout chambouler, comme l'explique Nathalie Agege, présidente de la société Pronim, pas encore soulagée.
Pour l'instant, je pense que c'est primordial de garder la distanciation sociale avec nos collaborateurs et les visiteurs qui viennent chez nous. On fait encore beaucoup de rendez-vous en visio, on ne prend toujours pas l'avion ni le train pour se rendre à nos rendez-vous. On ne serre pas la main, on ne fait pas la bise, on a du gel, on a des masques, on l'a encore. La santé de mes collaborateurs, c'est extrêmement important, le bien-être dans leur famille, c'est extrêmement important. On n'est jamais 100% de l'équipe.
Le télétravail reste donc privilégié et Charlène au marketing a réintégré les locaux de son entreprise hier seulement, toujours très prudente.
C'est quand même bien de garder encore un petit peu de distanciation parce que c'est bête d'avoir fait tout ça pour rien, 3 mois, tous isolés, pour que ça recommence peut-être à l'hiver prochain. Mais ça n'empêche pas d'avoir des moments d'échange le matin où on prend le café peut-être dans une salle plus grande. Mais voilà, j'essaie de garder une distanciation quand même.
Et dans cette PME qui fabrique des textiles intelligents, qui a vu son chiffre d'affaires augmenter pendant l'épidémie, la volonté c'est bien d'instaurer une nouvelle organisation du travail.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Le traiteur Fauchon, symbole du raffinement à la française, demande à être placé en redressement judiciaire. L'entreprise, elle a aussi beaucoup souffert de la fermeture imposée par le Covid et auparavant des mouvements sociaux, notamment des gilets jaunes. Le SNPL, le syndicat majoritaire chez les pilotes d'Air France, donne son feu vert au plan de départ volontaire. Un accord de rupture conventionnelle qui prévoit le départ donc d'ici la fin de l'année d'environ 400 pilotes de la compagnie. Les municipales, J-5 pour le deuxième tour, le second tour à Dijon, théâtre de violence entre communautés tchétchènes et maghrébines ces dernières semaines. La garde à vue des 9 personnes interpellées hier a été prolongée de 24 heures. Dijon, où François Rebsamen brigue un quatrième mandat, arrivé en tête avec 38,2% des voix. Seules 2 autres listes se maintiennent. À droite, celle d'Emmanuel Bichot, 19%. Et pour Europe Écologie Les Verts, celle de Stéphanie Mode, crédité de 15,1% des intentions de vote. La candidate écologiste qui estime qu'il ne faut pas stigmatiser la ville avec ses violences.
Ce qui s'est passé à Dijon, malheureusement, aurait pu se passer dans une autre ville. C'est un enchaînement de situations qui déborde très largement la responsabilité d'une municipalité ou une municipalité, en tout cas sur ce type d'agissement. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de mettre en place, nous c'est la tranquillité publique, c'est pas la sécurité. Alors après, que ce soit dans le quartier des Grésilles ou dans n'importe quel quartier de Dijon, donc il nous faut déjà une présence renforcée de la police nationale, qu'elle puisse effectivement jouer à la fois son rôle de prévention, de connaissance des réseaux quand il y en a existants, de circulation malheureusement d'armes quand il y en a aussi, et puis effectivement intervenir vite quand il y a en fait des ordres à l'ordre public, voire pire. Donc le rôle d'une municipalité, selon moi, nous pensons qu'il faut vraiment investir beaucoup plus dans nos quartiers en termes de prévention, en termes de médiation, en termes de moyens humains, que ce soit le renforcement par exemple des gardiens d'immeubles qui existaient à un moment donné, qui n'existent quasiment plus. Donc il faut aider les bailleurs sociaux à pouvoir réengager ces gardiens d'immeubles. C'est aussi la police de proximité, les îlotiers. Ça existait aussi à un moment donné, ça n'existe plus. Et puis nous, notre police municipale, de faire preuve de prévention aussi et d'intervenir en amont, mais justement pour anticiper toute problématique qui après dérape comme on a pu le voir.
La candidate Europe Écologie Les Verts à Dijon, Stéphanie Mode, au micro européen de Jean-Gabriel Bourgeois. Novak Djokovic, à son tour, testé positif au coronavirus. Sans symptômes, mais positif. Et numéro 1 mondial du tennis l'a bien cherché, si on peut dire, puisqu'il a organisé dans les Balkans un tournoi au mépris de toute précaution sanitaire. On savait que plusieurs autres joueurs avaient été testés positifs. Cette fois donc, c'est lui, Djokovic, qui ce soir se dit profondément désolé et reconnaît avoir eu tort d'organiser ce tournoi. En foot, le PSG a indiqué aujourd'hui que 3 joueurs ont eu le Covid pendant le confinement, mais qu'ils ne sont plus contagieux aujourd'hui. À propos de foot, la Ligue 1 se jouera bien à 20 confirmations aujourd'hui et donc relégation d'Amiens et de Toulouse en Ligue 2. Enfin, si vous voulez assister au concert de Céline Dion aux Vieilles Charrues l'année prochaine, c'est demain à 10h qu'il faudra jouer virtuellement des coudes pour obtenir un billet. Quelques minutes après, il sera sans doute trop tard, les Vieilles Charrues qui avaient été annulées cette année. La météo, on voit ça avec vous Anissa Haddadier pour demain, une journée encore très ensoleillée.
Oui, effectivement Isabelle, avec en début de journée demain sur le Roussillon des entrées maritimes et donc du coup demain matin des nuages bas sur le littoral. Dans l'après-midi sur les Alpes et les Pyrénées, les nuages là aussi deviendront un petit peu plus nombreux, un petit peu plus épais, avec même des averses localement orageuses. Sur tout le reste du pays, il fait très beau encore demain et surtout très chaud. Vous le constaterez, le temps deviendra même lourd. Avec au lever du jour, 11 degrés déjà à Beauvais, 12 à Caen, 14 à Cherbourg et Manosque, 15 à Belfort et Clermont-Ferrand, 18 à La Rochelle, Lyon et Paris. Et puis dans l'après-midi, ça grimpe encore avec 26 degrés à Dunkerque, 27 à Nice, 29 à Marseille et Biarritz, 30 à Metz, Lille et Strasbourg, 32 à Nantes et Besançon, 34 pour Paris et Bordeaux, 35 à Lyon et la maximale 36 degrés pour Mont-de-Marsan.
La météo pratiquement caniculaire, signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, c'est la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir la directrice générale de LinkedIn en France. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h16, merci à vous d'écouter Europe 1. On s'intéresse maintenant à la bourse avec vous Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui continue de battre des records sur l'indice Nasdaq, emmené toujours par les valeurs de technologie.
Ça continue, toujours pareil, même schéma, Wall Street poursuit sa progression. Plus 0,5% sur le Dow Jones quand même, 26 156 points. Mais c'est donc le Nasdaq qui décolle de nouveau, plus 0,74%, nouveau record historique, 10 132 points. Et le marché continue de miser sur un rebond rapide de l'activité économique, malgré l'épidémie de coronavirus qui reste active aux États-Unis et en Amérique du Sud. Une nouvelle aide aux ménages américains de 1 200 $ par personne serait dans les tuyaux. Donald Trump parle d'une annonce dans les prochaines semaines. Il y avait déjà eu une aide de 1 200 $, exactement la même aide, c'était il y a quelques semaines.
Et il est en campagne, donc.
Et oui, évidemment, ça tombe bien, ça tombe bien. Ce sont donc toujours les poids lourds de la cote avec les valeurs de technologie qui grimpent, toujours pareil. Apple, plus 2,1%, nouveau record, $366.53. Amazon, plus 1,8%, ça continue sur Microsoft, plus 0,6%, aussi $202. Facebook, plus 1,3%, $242. Cisco, plus 0,7%. En revanche, le pétrole marque une pause sur les $40. Il était bien remonté. Ça redonne donc un petit peu de terrain sur le baril WTI, moins 0,8%. Exxon gagne quand même 0,6%. Le géant pétrolier est à $46.70. L'euro est plus calme, 1,13 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, Didier, a, elle, retrouvé la zone des 5000 points en nette hausse de 1,39%.
Oui, ça s'est bien passé. La Bourse s'est réveillée. Hier, c'était très calme. Alors, il n'y a pas eu énormément de volume, mais ça a suffi pour faire remonter le CAC 40 sur les 5000 points. Plus 1,39%, 5017 points. Quelques secteurs clés ont retrouvé un petit peu de couleur, comme l'automobile, Peugeot, plus 7,5%, Renault, plus 6,5%, dans l'espoir de mesures de soutien additionnelles au niveau européen, cette fois pour tenter de surmonter la crise dans le secteur automobile. D'ailleurs, les équipementiers automobiles suivent le mouvement. Valeo, plus 3,5%, Michelin, plus 3%, et Faurecia, plus 5,5%. Les banques aussi remontent. Natixis, plus 5%, 2,33 €. Là, c'est le broker Morgan Stanley qui vise un cours de 2,5 € sur Natixis, donc qui en profite, plus 5%. Les autres banques sont plutôt bien orientées. Société Générale, plus 4,4%. On a Crédit Agricole, plus 3,5%. Et BNP, plus 3%.
Et puis, exception du jour, Technicolor, qui a encore perdu du terrain.
Toujours, oui, ça se passe pas bien. 3,45 € seulement. Le titre Technicolor, le spécialiste des effets spéciaux et de la post-production pour le cinéma, la télévision, a annoncé un accord de principe sur un plan de restructuration très lourd, avec un nouveau financement de 420 millions d'euros. De quoi réduire l'endettement du groupe qui plombe les comptes de Technicolor. Technicolor, moins 11,7% ce soir, exactement. Sur les autres places financières, ça monte partout. Forte hausse sur le DAX à Francfort, plus 2,1%. À Milan, plus 1,8%. On a Bruxelles qui prend 1,5%. Madrid, plus 1,2%. Et le CAC 40 en hausse d'1,39%. 5017 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Didier Hamot de boursier.com. Il est temps de retrouver l'invité éco, Emmanuel Dutheil. Vous recevez ce soir sur Europe 1 la directrice générale de LinkedIn France.
Bonsoir Fabienne Arata.
Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de LinkedIn en France. Alors c'est bien évidemment le réseau social pour les professionnels sur lequel on trouve parfois un travail. 20 millions d'utilisateurs aujourd'hui de LinkedIn en France. Vous avez passé la barre, je crois, pendant le confinement. Justement, est-ce que le confinement a été une période propice pour que tout le monde remette un petit peu à jour son profil ?
Alors, effectivement, nous avons franchi la barre des 20 millions de membres en France pendant le confinement, c'est-à-dire un peu plus de 69% de la population active française, dont, et je tiens à le souligner, près de 75% de ces 20 millions de membres sont en dehors de Paris, donc sur l'ensemble du territoire français et dans toute taille d'entreprise. Alors, effectivement, ce que nous avons pu observer pendant le confinement, c'est pas forcément que les pages de ces 20 millions de membres aient été mises à jour, mais plutôt qu'ils ont profiter de cette période inédite pour renouer le contact avec leur réseau professionnel d'une part et surtout pour mettre à profit ce temps pour se former puisque nous avons observé une augmentation de la consommation des contenus de formation de près de 55% lorsqu'on compare le mois d'avril de cette année au mois d'avril de l'an passé et en particulier les demandeurs d'emploi qui en ce qui les concerne ont eu une augmentation de 86% de la consommation des contenus de formation pendant cette période de confinement.
Est-ce que c'est quelque chose d'historique ? Vous n'avez jamais vu une telle activité sur LinkedIn ?
Alors, je crois que la période que nous venons tous de vivre est effectivement une période historique et en cela, effectivement, les taux records de partage, de connexion, d'échange et de conversation sur la plateforme sont effectivement à l'image de cette période que nous venons de vivre.
On voit hein, que le chômage va fortement augmenter. Bruno Le Maire dit que 800 000 postes pourraient être supprimés. Est-ce que vous le voyez, cette situation extrêmement inquiétante pour l'emploi ?
Nous avons mis à disposition l'ensemble des entreprises pour les métiers essentiels, que sont d'une part les métiers de la santé et d'autre part les métiers de la logistique, de la distribution et des transports, gratuitement à disposition nos solutions de recrutement parce qu'il y avait une très forte demande d'emploi sur ces métiers essentiels et nous allons continuer à soutenir ces efforts. Donc sur ces métiers-là, une forte aspiration. Nous constatons également un phénomène d'aspiration pour l'ensemble des emplois, tout secteur confondu qui nécessite une composante digitale du métier et une compétence technique ou technologique. Ensuite, la troisième tendance que nous observons, plutôt sur d'autres pays qui sont en avance de phase sur la France en termes de déconfinement, et je pense en particulier à la Chine ou à l'Italie, une reprise des recrutements. Et en fait, l'ensemble des courbes des pays suivent la même tendance avec quelques semaines de retard.
Il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont chercher un emploi que d'entreprises qui vont en proposer.
Effectivement, il va y avoir une forte recherche d'emploi et là, ça va être différent selon les différents secteurs. En revanche, ce qui va être l'une des priorités pour l'ensemble des entreprises va être de repenser l'ensemble des compétences qu'elles ont à disposition. Donc la nécessité pour les entreprises de repenser la manière dont elles forment, dont elles engagent leurs équipes et dont elles communiquent avec leurs équipes et avec leurs clients.
Et elles le font déjà aujourd'hui ? C'est déjà tangible sur votre site ?
Absolument. Ce que nous avons constaté, c'est une évolution des formes de communication pendant la période de confinement et cette tendance perdure aujourd'hui. Une accélération évidemment de la communication digitale par nécessité. Nous avons annoncé aujourd'hui, vous l'avez probablement vu, LinkedIn Stories qui permet de communiquer de manière extrêmement instantanée et facile pour l'ensemble des professionnels et pour les entreprises. Donc une façon plus authentique, beaucoup de dirigeants ont pris la parole eux-mêmes pour incarner le positionnement de leur entreprise pendant cette période de confinement et des dirigeants de toutes sortes d'entreprises, de toutes tailles, de la start-up, de la PME jusqu'aux très grands groupes pour incarner le propos sociétal de l'entreprise. Et ça, c'est la deuxième tendance en termes de forme de communication. Donc une parole incarnée par les dirigeants, une parole authentique et une parole ciblée.
J'ai l'impression que pour le moment, vous ne voyez pas encore les difficultés du marché du travail.
Alors, les difficultés du marché du travail, je crois que nous les constatons tous, puisqu'effectivement l'économie est en phase de redémarrage. Donc l'ensemble des entreprises doivent reprendre leur marque, et ce, quel que soit leur secteur. En revanche, je dirais que les signaux en fonction des différents secteurs d'activité d'une part et en fonction des fondamentaux des entreprises anti-Covid sont très disparates et il est fort difficile aujourd'hui de tirer une analyse complète et exhaustive de ce qui peut se passer dans les mois et semaines qui viennent en termes d'emploi ou de perspective.
Mais alors j'ai presque envie de dire, et pardonnez-moi peut-être la formulation, mais la situation, plus dure elle sera, mieux ce sera pour LinkedIn, puisque plus c'est compliqué de trouver du travail, plus on a intérêt à utiliser ce genre de réseau pour essayer de trouver éventuellement un travail.
Notre propos et notre mission, il est d'accompagner l'ensemble des professionnels et entreprises, donc les quelques 20 millions et les 840 000 entreprises qui sont présentes sur la plateforme, et de les accompagner dans leur parcours professionnel et dans leur parcours économique, dans les bons et dans les mauvais moments, en termes de formation, en termes d'employabilité, en termes de communication et d'accès au marché. Voilà le propos de LinkedIn, l'accompagnement dans la vie professionnelle.
Vous ne voulez pas me répondre, j'ai l'impression. C'est le propos, mais c'est une bonne nouvelle pour vous.
Bah, je dirais que notre propos, il est avant tout de soutenir l'économie dans l'ensemble des pays où nous opérons. Et évidemment, en France, nous avons joué à plein notre rôle de soutien pendant la crise.
Un grand merci Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn en France, d'avoir été notre invitée. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous et à demain, effectivement, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Deux photos à la une de Libération, celle d'Harlem Désir en 1988 et celle aujourd'hui d'Assa Traoré avec ce titre « Antiracisme, une cause, deux combats ». De SOS Racisme dans les années 80 au comité Adama. Aujourd'hui, la lutte contre les discriminations a profondément muté au prix de tensions idéologiques et générationnelles. 35 ans après la campagne « Touche pas à mon pote », la lutte contre les discriminations a beaucoup évolué, notamment le long d'une fracture opposant les universalistes d'antan aux décoloniaux. Le Caraoult, titre Le Parisien aujourd'hui en France, le professeur marseillais sera auditionné demain après-midi par les députés de la commission d'enquête sur le coronavirus. Déconfinement au travail, ce qui change. Titre Ouest France, un nouveau protocole sanitaire concernant les entreprises entre en vigueur demain. On en parlait tout à l'heure dans votre journal. Il assouplit les règles applicables depuis la première phase du déconfinement le 11 mai. Municipal, la vague verte aura-t-elle lieu, s'interroge le Figaro. Les écologistes espèrent remporter plusieurs grandes villes ce dimanche. Une série de victoires qui leur permettrait de devenir la force majeure de la gauche. Croissance, un rebond porteur d'espoir pour les échos. L'activité redémarre plus vite que prévu. Vu un rebond davantage marqué en France où le coup d'arrêt avait été plus brutal. Et puis, comment allons-nous, s'interroge le journal La Croix avec un grand point d'interrogation. Selon moi, de crise sanitaire et de confinement strict ont éprouvé plus ou moins profondément les corps et les âmes de nombreux Français. Beaucoup ressentent aujourd'hui des difficultés à se relancer dans la vie, à réinventer leurs relations aux autres et à trouver de nouveaux équilibres intimes et collectifs. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h30 tout pile et vous retrouvez tout de suite Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission et à tout à l'heure 23h pour un nouveau point sur l'info.
Exactement, à tout à l'heure.